Vous êtes sur RTL.
Renaud.
Oui, Pierre, le musée des Beaux-Arts de Rouen où nous faisons escale pour la deuxième matinée. Merci beaucoup. RTL vous régale, c'est parti jusqu'à midi et demi. Prochaines infos à midi.
11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Bonne fin de matinée sur RTL, merci d'être avec nous pour la deuxième matinée, je vous le disais, depuis le musée des Beaux-Arts de Rouen, dans ce magnifique patio qui nous accueille. Je voudrais qu'on remercie tous ceux qui nous ont reçus ici de manière absolument admirable. On était très très bien accueillis pour finir la semaine. On boucle la boucle et on part dans les boucles de la Seine, de la Normandie au Havre. On va donc longer la Seine, Vanessa. C'est le premier gros effet de cette émission.
Ouais. Ah, je suis tellement pas attendu.
J'imagine.
Je suis bouleversé.
Jean-Seb, allez, sérieux, un mot sur le terroir du jour. On est en Normandie, une région, 5 départements.
Dont la Seine-Maritime, 1 250 000 habitants globalement. Une superficie de 6200 km² avec ses 130 km de côte, j'en parlais hier, qui vont du Havre au Tréport. 5 villes d'art dans ce département, Dieppe, Fécamp, Le Havre et Rouen, ville dans laquelle nous sommes. Il faut savoir qu'à la création des départements, en 1790, les révolutionnaires avaient donné à ce département le nom de Seine inférieure. Un nom trimballé jusqu'en 1955, hein, jusqu'à ce qu'on change avec 5 ou 6 autres départements. Aujourd'hui, les habitants du 7-6, du 76, on porte le doux gentilet, j'adore, les Seineaux-Marins.
C'est joli, c'est vrai.
Je trouve ça magnifique. Alors, en allant de la Seine vers la mer, on croise des paysages de pommiers, de toiles d'impressionnistes, de ruines d'abbayes sublimes. Il y a 8 bacs qui permettent de traverser d'une rive à l'autre de la Seine, parce qu'il faut savoir qu'il y a très peu de ponts sur la Seine, entre Rouen et l'estuaire de la Seine. Il y en a 3, me semble-t-il, si je ne fais pas d'erreur. Il y a Rouen, bien sûr, il y a Tancarville et il y a le pont de Normandie. Tout cela fait que depuis des lustres, ça a donné une atmosphère d'un romantisme absolu, ces bacs avec lesquels on peut traverser. Lorsqu'on quitte Paris, avant d'arriver en Normandie, on visite l'incroyable villa Savoie à Poissy. Alors, on n'est pas encore en Normandie, on y arrive. Une villa qui a été dessinée par Le Corbusier, qui est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Une habitation futuriste posée sur des pilotis, véritable manifeste de l'architecture contemporaine. Et puis, plus loin, on peut faire une échappée en pleine nature sur le sentier de grande randonnée numéro 2 qui traverse le parc naturel régional du Vexin. Et l'arrivée en terre normande se fait par l'heure. Il y a Giverny, évidemment, qui apparaît. Un village connu dans le monde entier grâce à Monet et à ses jardins. Aux Andelys, on est impressionné par le château Gaillard, forteresse totalement énorme, finie en 1198, prise une seule fois dans son existence, en 1204. 6 ans après la fin de sa construction, c'est dire si elle a servi. C'est à ce moment-là que la Normandie est devenue française, et cette Normandie fait le bonheur des gourmands.
C'est beau. C'est vrai qu'il y a quelques jours, on était sur la pointe du Cotentin, on a pris un grand bol d'air frais. C'est vrai que cette Normandie est belle, elle est chargée d'histoire, il y a tellement de choses à dire. Alors aujourd'hui, on prend la route, on part de Rouen pour remonter jusqu'au Havre, on suit cette jolie Seine. Jean-Sébastien aime bien faire ses petits pas de côté chaque fin d'émission.
Vous allez faire pareil ?
Il est possible que j'en fasse quelques-uns aujourd'hui. Alors, je préfère vous prévenir, ce sera toujours pour la bonne cause. Ne vous inquiétez surtout pas.
Avec de bonnes adresses et de bons produits.
Ben surtout.
C'est la garantie de la qualité de cette émission.
Et on est encore devant ce tableau absolument, moi qui m'émeut, ce déjeuner de mariage à Yport qui date de 1886 avec ses convives autour d'une belle volaille, autour de cidre, de jus de pomme, de calvados, de vin, de tourte.
Signé Albert Fourier.
Exact. Et c'est avec une toile tendue pour que les convives ne soient pas trop agressés par le soleil. On est sous un pommier, on est dans un champ et c'est exactement là où nous sommes nous-mêmes dans ce musée des Beaux-Arts de Rouen qui nous accueille.
Il manque un peu de musique, genre Nolwenn Leroy par exemple. Au programme d'RTL pour Égal ce matin, La Belle. Charline Spiteri et Texas. Hi, 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 hi. We got high, 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 high. En 1986, la chérie de Daniel Balavoine. Et puis Francis Cabrel aussi avec nous.
À l'aube revenant, les amants se relèvent.
Voilà le programme, le menu, on en reparle. C'est RTL vous régale pour la dernière de cette semaine. À tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30.
RTL vous régale.
D'alcool. Passez
une bonne journée sur RTL.
RTL, toujours avec vous. 11h-12h30.
RTL vous régale.
Nous sommes dans les boucles de la Seine ce matin. On va de la Normandie au Havre. Louise, vous êtes la responsable officielle dans cette émission du plateau.
Oui.
Le plateau A. Fromage.
Oui.
Ça vient de résonner très fort dans, dans ce patio.
Oui. Bon, alors Normandie, Normandie, fromage.
Non, camembert.
Ah, merci. Camembert de Normandie. Autre. Alors, c'est un fromage français, bon, bah, comme vous le savez, originaire de Normandie, qui bénéficie d'une AOC, appellation d'origine contrôlée depuis 1983. Le camembert de Normandie appartient à la famille, on dit, des fromages à pâte molle et croûte fleurie, chacun en sa petite famille. Hein. Il est fabriqué à partir d'un lait cru produit par des vaches de race normande qui pâturent plus de 6 mois dans l'année. Alors, le camembert de Normandie tire son nom du village de Camembert, qui est situé à une trentaine de kilomètres au sud de Lisieux, dans le département de l'Orne. Mais comment reconnaître un vrai camembert ?
Explication.
C'est de moins en moins facile.
Alors, petite précision, comme ça vous allez vous en sortir. Donc, il y a camembert de Normandie. Seuls les camemberts qui bénéficient de l'AOC AOP ont le droit à cette appellation. C'est ça le vrai camembert.
Qui doit être fabriqué en Normandie.
Donc, alors, retenez simplement camembert de Normandie.
Okay.
D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges très précis, les vaches normandes, le lait, la durée, le pâturage, etc. Ensuite, il y a le camembert fabriqué en Normandie.
Ça, c'est différent.
Qui s'appelle juste camembert. Donc ça, c'est réservé au camembert élaboré en Normandie. Donc en revanche, on ne sait pas du tout d'où vient le lait. Il peut provenir de n'importe où.
D'accord, pas forcément de Normandie.
Exactement.
Okay.
Mais il est fabriqué en Normandie. Donc ça, c'est déjà un peu moins bien. Et puis, il y a
le camembert.
Générique. Court. Et alors ça, ça n'a aucune précision. Vu que c'est pas un terme qui est protégé, il peut être fabriqué dans le monde entier de n'importe comment. Donc si vous voulez un vrai camembert, vous choisissez le camembert de Normandie avec ses labels AOC, AOP. Bon. Et si vous voulez vous faire une petite folie avec le must du must, je vous conseille le camembert de Champ Secret, qui est le seul camembert bio et de Normandie.
En fait, le camembert, il faut savoir carrément où il est fabriqué. Vous connaître la maison maintenant, parce que Lactalis a fait tripatouiller dans l'appellation il n'y a pas longtemps. Et maintenant, il faut vraiment choisir.
Mais ça veut dire qu'en grande surface, par exemple, il est impossible de trouver des camemberts dont vous parlez.
Il est possible de trouver des camemberts AOP. Mmh.
C'est de du plus camembert de Normandie.
Oui. Oui, absolument. Sauf que le camembert de Normandie aujourd'hui est de moins en moins souvent au lait cru. Et c'est ça le problème. C'est que aujourd'hui, on a du lait thermisé.
Faites bien de parler de lait parce que je voudrais qu'on évoque aussi. On ne va pas rester sur le camembert pendant la.
Non plus.
Matinée, mais
quoi que on peut en manger.
Non, mais on peut faire une émission là-dessus.
On pourrait y consacrer une émission.
Déjà, retenez bien hein, camembert de Normandie, voilà. Camembert élaboré en Normandie et camembert.
Tout déjà, à partir de là, c'est bien.
Tout est une histoire de lait, évidemment. Vous l'avez compris. Et puisqu'on parle de lait, on doit parler de la confiture de lait.
C'est bon ça.
Hein. Un truc d'enfance. Ça.
Et pourquoi pas avec du camembert ? Bon bref, je vais pas là. Alors la confiture de lait se présente sous l'aspect d'une sorte de crème épaisse onctueuse de couleur caramel. C'est un mélange d'environ 2/3 de lait partiellement écrémé avec 1/3 de sucre cristallisé qui est porté à ébullition puis cuit à feu très doux plusieurs heures jusqu'à ce que la texture s'épaississe et devienne couleur caramel. Donc c'est onctueux, c'est délicat.
Et vous allez me dire que comme d'habitude, il y a une histoire derrière.
Bah oui, j'adore.
C'est bon.
Bah oui, je trouve que c'est toujours meilleur quand on raconte une histoire. En France, il y a une légende qui raconte qu'au 19e siècle, on attribue la création de la confiture de lait à la distraction d'un chef cuisinier de Napoléon. À l'époque, on donnait un bol de lait sucré aux soldats et un jour, pendant une bataille, le lait a chauffé plus longtemps que prévu et il s'est transformé en une pâte onctueuse, délicieusement caramélisée. Et apparemment, bon, bah, ça a plu pour que ça devienne aujourd'hui une véritable spécialité normande. Et bon, bah, écoutez, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les erreurs, parfois, amènent à de jolies choses.
Souvent.
J'adore l'image. J'ai l'image du grognard de l'empereur. Tiens, voilà ton petit bol de lait sucré, mon chaton.
Et qui découvre une merveille. Il y a cette merveille, cette autre merveille aussi que j'adore dans la région, cette boisson qui est à mi-chemin entre le cidre et le calvados, ce qu'on appelle le pommeau.
Oui, hier je vous ai parlé de la pomme, qui est un peu le symbole normand. Le pommeau, c'est à mi-chemin entre le cidre et le calvados. Ça conjugue vraiment, c'est le mou de pomme, donc c'est du jus fermenté et du calvados, donc parfois c'est moins connu. Pourtant, il bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée, donc c'est quand même labellisé, donc de qualité. Cet alcool est copieusement utilisé dans l'élaboration de sauces ou la cuisson de certaines viandes comme le canard. On en a parlé aussi hier, le fameux canard à la rouennaise. C'est aussi très apprécié en apéritif. C'est une petite couleur ambrée. Ça rappelle avec subtilité le caractère des pommes qu'on peut manger dans les champs.
Je vous annonce le retour de Navarro d'ici quelques instants.
J'écoute.
Il le tient bien. On va vous expliquer pourquoi je dis ça d'ici quelques minutes. RTL vous régale avec Nolwenn Leroy. Tout de suite, Brésil, Finistère, c'est le nouveau titre de Nolwenn, signé par Benjamin Biolay, avec qui elle enregistre un nouvel album. Finistère, c'était Nolwenn Leroy sur RTL.
RTL vous régale.
RTL. 11h-12h30.
RTL vous régale.
Refaites-moi Navarro, Jean-Seb.
Navarro, j'écoute.
Pas mal. Reste un peu de boulot, mais pas mal. Je dis ça parce qu'on va accueillir, alors pas Navarro, mais la famille Navarro dans cette émission.
Oui,
enfin, très peu. On va les accueillir.
On va en parler.
On va évoquer.
C'est vrai que depuis Rouen, si on part vers Le Havre, il faut aller faire un petit tour à Duclair pour découvrir une famille des héros du patrimoine, comme je les aime. C'est la famille Navarro, justement. Ils sont dans leur château du Tailly. Ça fait des années et des années qu'ils rénovent, qu'ils restaurent, qu'ils entretiennent ce patrimoine. À l'origine du site, il y avait une léproserie au XIIe siècle qui dépendait de l'abbaye du Miège. On est sur le mont David Villa, face au fief du Tailly. La construction du château, elle a débuté dans la première moitié du XVIIe. Et le bâtiment de style renaissance italienne est à ce jour l'unique vestige de ce type en Seine-Maritime. Abbaye du Miège, qui est une des plus admirables abbayes de France, fondée au 7e, consacrée par Guillaume le Conquérant, quand même, qui prospéra jusqu'à la Révolution. On en fit une carrière de pierre à cette époque, c'est-à-dire que chacun pouvait venir chercher un morceau de caillou pour venir construire sa maison à lui. Et même si elle est une ruine, même si aujourd'hui c'est une église à ciel ouvert, comme on dit, ces ruines sont totalement impressionnantes et empreintes d'une émotion absolue. Ensuite, vous avez Saint-Vendry-le-Rançon et son abbaye également, où des moines là vous accueillent pour vous faire visiter les lieux. L'abbaye fut également fondée au 7e, détruite par les Vikings au 9e, reconstruite, elle connut un passage à vide, mais les moines sont revenus s'installer au 19e. Et donc cette abbaye est une abbaye vivante. Et puis, lorsqu'on est à Rouen et que là on va vers Paris, il y a Giverny. Alors moi je suis fan de Giverny. Je suis pas certain que Claude Monet, quand il s'est installé là-bas, il s'est douté une seconde du destin qu'il allait donner à ce village de Giverny. Parce que Giverny fait partie aujourd'hui des passages obligés sur la carte du monde de l'art. On vient de Chine, des États-Unis, du Japon, de Russie, du fin fond de l'Amérique du Sud et également de tous les endroits de France et d'Europe pour voir Giverny et notamment pour visiter les jardins de Monet.
Il est enterré là-bas.
Monet est enterré au cimetière par paroissial, absolument. Il s'est installé en 1883 à Giverny. Il y a demeuré jusqu'à sa mort en 1926. Et à sa suite, de nombreux artistes admirateurs de Monet sont venus s'y installer à Giverny. Les fans, bien sûr, viennent voir sa maison, viennent voir les jardins, parce que les nymphéas ont été directement inspirés par ces jardins et rien n'a changé là-bas. C'est absolument saisissant. C'est comme si on pénétrait dans un tableau du maître. En voyant le jardin original qui a été créé par Monet, on prend conscience du génie absolu de cet artiste. Monet s'est inspiré de la nature pour en livrer une vision intérieure, une vision personnelle qu'il a su retranscrire dans des jardins qui sont purement émotionnels, qui sont d'un contemplatif absolu. Moi, je pourrais rester des jours entiers devant ces jardins parce que c'est vraiment les impressions, ça traduit les impressions de la lumière sur la toile. On les voit, on a tout en image. On est pratiquement saturé de couleurs et de plaisir en voyant ça. Et c'est un bonheur d'aller voir là-bas à Giverny et d'avoir par l'intermédiaire du téléphone David Gallienne dans son Jardin des Plumes.
Voilà, le chef du restaurant, le Jardin des Plumes. Bonjour David Gallienne.
Bonjour à tous.
Bienvenue sur RTL. Faut-il rappeler que vous êtes le vainqueur de Top Chef 2020? Je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. Que vous êtes chef étoilé aujourd'hui. Et que on va rentrer dans le vif du sujet directement. Parce que David Gallienne, faites-nous rêver. Il y a quoi à la carte ce midi, chef?
Ah, alors ce midi, plein de choses normandes. Et effectivement, tout comme Monet, le terroir, mais aussi la nature m'inspire beaucoup. Et c'est grâce à mon grand-père que je suis arrivé aussi dans le métier, dans cette passion qu'est la cuisine et l'art de la table, l'art de recevoir. Ce midi, on a des langoustines piquées au gin normand avec une raïta de concombre et les herbes du jardin. Donc je m'inspire aussi de tous mes voyages puisque comme Monet, ouais, je voyage beaucoup. J'ai plus de 30 pays visités au bout de mes 33 ans, bientôt.
C'est drôle parce que vous dites langoustine piquée au gin. Là, vous venez de piquer au vif Jean-Sébastien, qui a ouvert les yeux trois fois plus grand que d'habitude. C'est intéressant. Piquée au gin, ça veut dire quoi? Elles sont flambées ou
Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, on vient piquer à la seringue les queues de langoustine.
Ouh là là.
De façon à ce que la chair de la langoustine à la cuisson
Et les gorgées de gin.
elle est gorgée de gin et ensuite on la percute au four, c'est-à-dire qu'on part sur des langoustines vivantes. Donc elles sont quelque part anesthésiées. Certains sont injectés des doses de Pfizer. Et ben les langoustines se font injecter une dose de gin avant de passer au four.
Et j'adore la dégaine du pass sanitaire de la langoustine. Hein. Franchement, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer d'inventif dans votre cuisine, etc. Comment se retrouve la Normandie dans la cuisine du Jardin des Plumes?
Moi, je suis 100% normand. Hein. C'est très attaché à mon terroir. J'ai grandi en Normandie. J'ai parfait mes classes que dans des restaurants étoilés normands avant d'arriver à Giverny. Il y a maintenant un petit peu plus de 4 ans. Donc, j'ai tissé un réseau de producteurs locaux qui est très fort. Beaucoup d'entre eux sont devenus maintenant des amis. Vous mangez 95% de produits normands à la carte.
Le maquereau, par exemple, parce que j'ai vu que vous avez un maquereau fumé, blette de couleur, condiment pignon de pain et datte en aigre doux. Moi, ça m'a parlé, ce truc-là.
Voilà. Donc, et la carte change vraiment. Il n'y a pas de règle aujourd'hui. C'est la météo, c'est les producteurs qui font la carte, c'est plus moi. C'est la nature qui nous commande et plus l'inverse.
J'aime bien cet état d'esprit. Ouais. Il faut leur rendre hommage, évidemment, à tous ces producteurs. David Gallienne, mille merci, en tout cas, d'être venu nous
avec
voir dans RTL vous régale. Et continuez à nous régaler.
Continuez à vacciner des langoustines. Derrière mes
casseroles. Ouais. Continuez à les percuter au four, ça nous va bien. On vous souhaite le meilleur. À bientôt, David.
À bientôt.
Merci, chef. Au revoir. RTL vous régale. La suite dans un instant sur RTL.
Ne bougez pas, dans un instant, RTL vous régale.
RTL vous régale, avec Jean-Michel Zeka.
Je vous l'annonçais il y a un instant, voici les petits challenges de Louise Petit-Renaud. Elle est surprenante, elle est pleine de ressources depuis le début de cet été. Elle vous a dépatouillé de quelques situations compliquées.
Surtout vous.
Marie-Louise est à Angers, elle a fait une sauce trop grasse, elle n'a pas envie de l'acheter, elle a mille fois raison.
Bien sûr.
Il y a une solution.
Mais oui, toujours. Vous allez, Marie-Louise, placer votre sauce au réfrigérateur au minimum une heure jusqu'à ce que le gras se fige en surface. Et puis comme ça, vous avez juste à le prélever qu'un écumoire et vous allez voir, radical, plus gras.
L'affaire est dans le sac. Sabine, à Ermenonville, se demande ce qu'elle peut faire avec des cosses de petits pois.
Eh bien, vous pouvez faire une délicieuse soupe froide que j'ai déjà préparée, c'est très bon. Vous allez faire revenir des oignons, échalotes et des cosses. Vous aurez bien sûr coupé les extrémités dans du beurre. Vous allez verser un bouillon par-dessus pour que ça cuise. Vous allez enlever, réserver ce bouillon, mixer vos cosses, vos oignons et vos échalotes avec un petit peu de crème. Vous servez ça froid à l'apéritif. Je vous garantis que c'est magnifique.
Faites des confitures de temps en temps.
Toujours, ouais, fin d'été, tout le temps, pour l'année.
C'est le cas de Juliette à Bourg-Saint-Maurice qui a fait des confitures. Elles ont tendance à être un peu acides.
C'est le problème de quelques fruits qui rendent beaucoup d'acidité. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ajouter, en mélangeant en même temps, une pincée de bicarbonate dans vos confitures une fois qu'elles sont cuites. Attention, hein, pas pendant la cuisson, c'est une fois qu'elles sont cuites. Et vous allez voir, le bicarbonate va tout de suite ôter l'acidité que certains fruits peuvent contenir.
Voilà, ça sale pas le...
Non, pas du tout. Bah justement, ça fait le contrebalance.
D'accord, très bien. Je rappelle que pour lancer des challenges à Louise, vous envoyez par SMS le mot régal, suivi de votre message au 64 900. On est encore là jusqu'à la fin du mois d'août, donc n'hésitez pas. Dans un instant, l'ambassadeur d'RTL vous régale. Ce sera juste après La Belle en 75. Lady Marmelade, on est à Rouen ce matin.
Oh,
1975, Lady Marmalade, c'était la belle sur RTL.
Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30. RTL vous régale. Comme. RTL, toujours avec vous.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Voilà, je vous l'annonçais, il est l'ambassadeur d'RTL vous régale et il est notre invité pour la deuxième fois. Il était déjà venu nous voir hier. Olivier Clément, bonjour.
Bonjour.
Guide conférencier ici, qui adore faire de la radio. Là, ça,
ouais.
C'est une vocation naissante chez vous, je le sens.
On va l'embarquer avec
nous. Voilà, on va l'embarquer. Alors, c'est bien que vous soyez là parce que vous nous décriviez hier l'exposition Salammbô actuellement qui se tient ici au musée des Beaux-Arts de Rouen à l'occasion du bicentenaire de la naissance de
Gustave Flaubert.
De Gustave Flaubert. Moi, je suis un escroc sur l'art et je ne vais pas vous mentir, c'est pour ça que je me plais à vous recevoir dans cette émission, parce que on dit que la scène a exercé une influence considérable sur l'œuvre des impressionnistes.
Bah, c'est tout le parcours de la scène, parce que l'impressionnisme s'est vraiment inventé, s'est forgé entre Paris, Rouen et Le Havre. Alors le thème de la scène n'a pas été obligatoire, mais il a été c'est un axe vraiment majeur pour la création, pour le devenir de l'impressionnisme. Et puis c'est un thème aussi, le fleuve pour lui-même, la vie du fleuve, avec toute la modernité que ça pouvait supposer aussi, dans une époque où les loisirs se développent, où il y a des bateaux à vapeur qui se développent, et effectivement les impressionnistes ont aimé rendre compte des réalités contemporaines.
Il y a des raisons à ça, techniques, météorologiques, de couleurs, de lumière.
La Normandie, c'est un territoire vraiment qui attire les peintres depuis le début du 19e, pour des raisons météorologiques, pour le patrimoine médiéval notamment du territoire. Donc il y avait déjà quelque chose qui était préalable aux impressionnistes, ils ne sont pas les premiers à découvrir l'impressionnisme. Mais il y a aussi une raison toute simple, c'est que dans les premières grandes lignes de train créées en France, c'est Paris-Rouen en 1848, avec prolongation vers Dieppe et Le Havre. Monet a grandi au Havre, et la plupart des impressionnistes se forgent à Paris ou en Ile-de-France. Donc effectivement, les raisons techniques étaient là aussi. Très pragmatiquement, prendre le train de Paris pour aller à Rouen et au Havre, c'était aisé à leur époque.
On a parlé évidemment beaucoup de l'exposition Salammbô depuis qu'on est installé ici. Il y a aussi une exposition, une collection résidente ici au musée des Beaux-Arts.
Ah oui, on a même la plus belle collection qui soit en province.
Parce qu'on parle des impressionnistes, c'est un musée qui est le fief de ce mouvement.
Oui, parce que les deux grandes collections en France, elles sont à Paris. C'est celle du musée d'Orsay et celle du musée Marmottan, Marmottan-Monet. La première en importance, vraiment en qualité, en diversité, c'est celle de Rouen.
Ici, on voit du Renoir, du Monet.
Alors, surtout Sisley, parce qu'on a on a à l'heure actuelle 10 peintures de Sisley qui sont là, mais il y a aussi quelques Monets, de très très bons Monets, Renoir un peu, effectivement.
Il y a aussi, il y a une raison, donc il y a la raison technique avec le train, l'apparition du train. C'est aussi la première fois avec les impressionnistes où ils sortent de leurs ateliers, les peintres, où ils ont techniquement la possibilité d'avoir des peintures.
Oui, alors ça, effectivement, la création, ce qui nous paraît une évidence du tube de peinture.
Et voilà.
Dans les années 1840, c'est aussi une des conditions absolument nécessaires pour que les impressionnistes puissent se balader avec la palette à la main, la toile et le paysage devant eux et peindre vraiment en plein air.
Ce qui les a libérés.
Quand les peintures sont véhiculées dans des vessies de porc, ce genre de choses, vous voyez, partir peindre en plein air, c'est pas vraiment faisable. Quoi. Alors on pratiquait la peinture en plein air mais pour des tout petits tableaux et qui en plus avaient le statut d'œuvre préparatoire mais pas d'œuvre achevée.
Voilà.
Les impressionnistes vont achever la peinture de la sensation immédiate et peindre simplement l'éphémère et le transitoire.
Est-ce qu'on a des toiles qui représentent des marchés de la région ?
Assez peu. Il y a une petite toile, mais de quelqu'un qui s'appelle Bracaval, qui est parallèle aux impressionnistes. Mais c'est pas vraiment une thématique qui a intéressé les impressionnistes.
Dans l'émission, vous avez Bracaval, moi j'ai Bracassé. Il va nous emmener au marché dans un instant, vous allez voir. On va aller sur le marché de Sotteville-les-Rouen. C'est Jean-Sébastien qui s'y colle avec le panier de la ménagère. On arrive dans un instant. Merci Olivier Clément.
Merci.
Je rappelle que vous êtes guide conférencier ici au musée des Beaux-Arts de Rouen. Et merci d'avoir joué le jeu pour RTL.
Merci beaucoup.
Texas, Charlene Spiteri, Hi, c'est sur RTL.
You've got the answers, baby, there's no doubt you got high. You're still high. Spinning out of orbit in the pale moonlight. Your eyes are burning like a neon light. You're so high. You're still high.
C'était Texas sur RTL.
Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30. RTL vous régale. RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
Et on vous emmène au marché. Vous savez qu'on aime beaucoup vous raconter des histoires. Enfin, que Jean-Seb aussi aime beaucoup vous raconter des histoires dans cette émission. On va vous emmener sur le marché de Sotteville-lès-Rouen.
Oui.
Qui porte ce nom.
Parce qu'Henri IV aurait lancé « Oh, quelle Sotteville !» en arrivant.
C'est vrai ?
Je ne sais pas.
Ah.
Je ne sais pas.
C'est dans la même veine que le Solilès. Quoi.
C'est voilà, c'est une histoire qui traîne. La cité ouvrière, en attendant de la banlieue rouennaise, en a gardé ce curieux nom à l'origine. Sotteville renfermait une immense ferme. D'ailleurs, en latin, villa signifie exploitation agricole. Aujourd'hui, c'est une ville de 30 000 habitants. C'est la première ville de l'agglomération rouennaise en termes d'emploi. Et au 19e, il y avait des usines textiles qui se sont développées. On vient d'en parler. 1843, inauguration de la ligne de chemin de fer Paris-Rouen, la première ligne de train longue distance, comme on disait à l'époque en France. Ça a totalement transformé la ville et se sont concentrés à Sotteville des installations d'entretien, de réparation, de construction ferroviaire. Une industrie qui a attiré des ouvriers en masse et la ville est devenue une ville de cheminots. Et donc, il en a fallu un marché populaire. Et depuis cette époque, place de la Mairie, il y a ce marché qui reste extrêmement intéressant, populaire, achalandé. Et c'est vraiment tous les jeudis et tous les dimanches le plus gros marché de la métropole de Rouen qui rassemble environ 220 étals de 8h à 13h. Vous avez toutes les spécialités de Normandie. Vous avez du Calvados. On va pouvoir vous vendre de l'escalope normande qui va être faite. Vous aurez juste à la sortir de votre petite barquette en alu. Vous avez de la turgoule qui est tiède, de la confiture de lait, évidemment. Faut savoir aussi, et c'est pour ça, c'est un des plus beaux marchés de France, hein, Sotteville-lès-Rouen. Et je voulais rendre hommage aux producteurs et aux chalands qui font ce marché parce que pendant le premier confinement, tous ces producteurs se sont unis pour que le marché ne ferme pas. Vous savez que ça a été une grande problématique pour les marchés de plein vent. Je vous parle même pas pour les halles. Il y a eu des polémiques autour de ça. Ici, tout le monde s'est associé et en fait, les chalands laissaient leurs commandes dans un vaste entrepôt mis à disposition par la mairie. Les comités de promotion
promotion des marchés, livrait directement les commandes au domicile des clients. Ça a été une chaîne de solidarité totalement impressionnante qui s'est créée à partir de ce marché de Sotteville. Et ça fait partie de cette France qui se bouge, de cette France qui a des idées, même dans des périodes compliquées. Et ça donne énormément d'espoir parce que on n'est pas sorti de tout ce problème. On ne sait pas vraiment où on va, mais en tout cas, on sait qu'on peut compter sur des gens de bonne volonté, de bonne intelligence, et que bah, on s'en sortira comme ça, je pense.
Bah, je pense aussi.
C'est vrai. Bravo, Jean-Seb.
Merci, Louise. dans un instant, il y a un autre truc qui n'a pas fermé pendant tous les confinements. C'est le frigo d'RTL Vaurial, qui fait l'objet d'un défi quotidien. Et ça, c'est dans quelques minutes sur RTL, entre Jean-Sébastien et Louise. Deux recettes originales, un ingrédient, vous connaissez la chanson. Et parlant de chanson, voici Daniel Balavoine, 1986, L'Aziza dans RTL vous régale.
Petite rue de Casbah, au milieu de Gaza. Petite brune enroulée d'un drap, court autour de moi. Ses yeux remplis de pourquoi, cherche une
de Daniel Balavoine sur RTL.
Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30. RTL vous régale. RTL.
11h, 12h30.
RTL vous régale.
Jean-Sébastien Louis, c'est le dernier défi frigo de cette semaine.
Oui.
Attention, puisque nous sommes vendredi, tirage au sort aussi dans quelques minutes,
oui.
Juste un peu avant 12h30 pour le week-end au château de Rochecotte à Saint-Patrice au cœur du Val-de-Loire. Je vous en reparlerai, vous serez au cœur des vignobles de Bourgueil. Je dis ça parce que France, vous ferez partie du tirage au sort. Mais ça, vous le savez déjà.
Oui, je sais.
Ah, voilà. Je ne garantis pas évidemment que votre nom va sortir du chapeau, mais si c'est le cas, on vous rappellera tout à l'heure. France, soyez la bienvenue sur l'antenne d'RTL.
Bonjour France.
Le défi frigo de ce midi grâce à vous. Vous appelez d'où France ?
De Loris, dans le Loiret.
D'accord. Alors vous avez ouvert le frigo à la maison et vous vous dites, tiens, je vais appeler les deux spécialistes, les experts de la régalade, pour leur proposer quoi en ce vendredi ?
Alors, j'aurais aimé cuisiner le maïs autrement qu'en salade. Hein.
D'accord. Autrement qu'en salade. On parle de maïs...
En boîte.
En boîte ou de maïs frais ?
De maïs en boîte. Hein.
Très bien. Donc d'accord. C'est les placards qu'on ouvre.
Oui, les placards, d'accord.
Voilà. Ouais,
placards dans lesquels... Placard dans lesquels nous n'avons ni mythe ni mouche, grâce à Louise, évidemment, qui nous a distillé ses précieux conseils ces derniers jours. On se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez RTL. Il est midi. Les infos vous sont présentées tout de suite par Pierre Collat.
Bonjour, bonjour à tous. Victoire des Françaises en handball à Tokyo. Les Bleus l'ont emporté face aux Suédoises. Score final 29 à 27, c'était encore très serré. Les handballeuses vont donc disputer une finale olympique. Ce sera contre la Russie ou la Norvège. Et il faudra mettre le réveil car cette finale aura lieu dimanche matin à 8h. À suivre aux Jeux Olympiques de Tokyo, dans une heure, coup d'envoi de la demi-finale de basket. Les Françaises face au Japon pour une place en finale donc. Les sports collectifs où les Français brillent, on rappelle hier les qualifications des hommes en handball, en basket et en volley. La finale olympique de basket d'ailleurs, ce sera cette nuit, France-États-Unis à 4h30 du matin. En vélo de piste, la Française Mathilde Gros vient de se qualifier en 8e de finale, c'est de la vitesse individuelle. À suivre aussi le 5000 mètres, c'est à 14h avec le Français Jimmy Gressier et le 4x400 féminin, c'est la finale avec une équipe française et c'est à 15h30. Voilà pour le programme des Jeux Olympiques aujourd'hui. En football, c'est la reprise de la Ligue 1 ce soir. Monaco face à Nantes, coup d'envoi à 21h, à suivre en intégralité sur RTL. Et puis, le sujet dont tous les fans de foot parlent aujourd'hui, c'est bien sûr le départ de Lionel Messi de Barcelone, après 20 ans dans le club catalan. Messi et ses 7 ballons d'or cherchent donc un nouveau club. Les bookmakers anglais, pour le moment, Paris pour le PSG. En France, l'extension du pass sanitaire, c'est pour lundi. Il devrait être présenté en restaurant et dans les cafés, même en terrasse. Hier, le Conseil constitutionnel a quasiment tout validé dans le projet de loi. Les sages ont toutefois censuré l'isolement des personnes positives et la rupture anticipée des contrats CDD sans passe. On reparle de tout ça dans RTL Midi tout à l'heure. Bénédicte Tassard reçoit Didier Chenet, président du groupement national des indépendants, pour parler de l'application de ce passe dans les bars, les restaurants et les hôtels. Pendant ce temps, l'économie retrouve un peu de couleur. L'emploi des salariés renoue presque avec son niveau d'avant-crise de fin 2019. C'est l'INSEE qui le dit ce matin dans une estimation provisoire. 239 500 créations d'emplois au deuxième trimestre 2021. C'est plus 1,2%. Une situation toutefois contrastée selon les secteurs. Et pour finir, sachez que si vous avez 450 000 dollars de côté, vous pouvez vous offrir un voyage de quelques minutes dans l'espace. La société spatiale Virgin Galactic remet des billets en vente depuis hier soir. Votre météo pour cet après-midi, un temps mitigé, concerne la moitié nord, avec éclaircies et passages nuageux plus ou moins nombreux, et des ondées passagères avec du vent. Il fait beau sur un tiers sud du pays, beau temps chaud dans le sud-est. Les températures d'ici ce soir, 19 à Avranches et Saint-Brieuc, 20 degrés à Cambrai, 21 à Poitiers, 22 à Saumur et à Meaux, 23 à Mont-de-Marsan, 24 à Cahors, 27 à Toulon, 28 à Montpellier, et 29 à Corté en Corse. Les courses, elles auront lieu à Cabourg en nocturne. Prix des Lycopodes, voici les pronostics de Jordan Philippi. Le 7, le 8, le 4, le 6, le 15, le 11 et le 10. La dernière minute, c'est le 7 Expeditius. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison, il est midi et 3 minutes. On retourne à Rouen pour la suite de RTL vous régale.
Oui Pierre, on est de retour. Merci beaucoup. Prochaines infos tout à l'heure à 12h30.
RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka.
Allez, vous êtes prêts les amis pour le défi frigo ? France est au bout du fil au 32-10. Elle a la bonne idée de nous proposer un truc tout simple. Hein. Une boîte
de maïs. C'est Jean-Seb qui commence ce matin. France, soyez attentifs. Voici en 1 minute 30 la première proposition de ce vendredi.
Je vais essayer en 1 minute 30. Ça va être assez compliqué. Je vais vous faire un pâté chinois. C'est un plat québécois que j'adore. Ben oui, pâté chinois, plat québécois, absolument. Vous faites d'abord, vous avez des pommes de terre. Vous faites une purée tout à fait classique. Vous faites cuire vos pommes de terre à l'eau. Vous les laissez cuire jusqu'à ce qu'elles soient fondantes, donc une quinzaine de minutes. Et puis, vous ajoutez, vous les passez au presse-purée. Vous ajoutez du lait, un peu de sel, un peu de poivre et vous réservez. Ensuite, vous préparez le maïs à la crème. C'est-à-dire que là, vous allez prendre votre maïs en boîte, vous allez juste faire fondre un peu de beurre dans une casserole. Vous ajoutez un peu de farine, vous ajoutez du lait et vous faites en fait une béchamel. Dans cette béchamel, vous incorporez le maïs, vous mélangez, vous assaisonnez à nouveau et vous réservez. Et puis, vous avez de la viande hachée. Soit vous avez un reste de bourguignon, soit vous avez un reste de blanquette de veau ou alors simplement une viande hachée. En fait, c'est un hachis parmentier, tout bêtement. Vous prenez un plat qui va au four, vous beurrez au fond, vous mettez des oignons ciselés sur le fond de votre plat, vous mettez une couche de viande, vous allez ajouter votre maïs en crème de maïs en fait, et puis vous terminez par la purée. Viande, maïs, purée. Vous émiettez dessus un peu de verdure, que ce soit de la coriandre, du persil, vous mettez au four à 180 degrés
top chrono
pendant 30 minutes.
Qu'est-ce que ça a de chinois?
Et ben, c'est un plat traditionnel.
Qui s'appelle le pâté chinois.
C'est un plat traditionnel québécois.
Chinois québécois, c'est la recette de Jean-Sébastien avec une boîte de maïs. C'est plutôt habile en tout cas. Louise.
Jean-Michel.
C'est le moment de nous faire rêver. Que faites-vous avec cette boîte de maïs?
France. Moi, je vais vous proposer des galettes de maïs au fromage. Donc, vous allez prendre votre boîte de maïs, vous allez égoutter votre maïs et vous allez le mettre dans un bol pour le mixeur. Vous allez ajouter du lait, des œufs, de la farine, sel, poivre et des herbes aromatiques si vous aimez. Ça, c'est vraiment selon vos goûts. Vous allez prendre, donc vous allez mixer tout ça. Vous allez obtenir une pâte. Vous allez prendre une poêle bien huilée. Allez, vous allez mettre des louches généreuses de pâte sur votre poêle afin de faire vos galettes. Vos galettes seront cuites. Ce que vous allez faire, c'est que vous avez quoi comme fromage dans le frigo? Un fromage que vous aimez bien, qui peut fondre. Moi, personnellement, j'adore la tome de brebis. Je ne sais pas si vous avez ça, si vous aimez.
Eh ben, allons-y pour la tome de brebis.
La tome de brebis. Donc, en fait, vous allez tout simplement couper votre tome en tranches et garnir vos galettes de cette tome. Vous allez passer le tout au four simplement quelques minutes pour que la tome fonde entre cette galette de maïs. Et vous allez vous régaler avec une bonne salade verte.
France!
Oui.
Je vous sens pas emballé. Je puis me permettre. Hein,
parce qu'en fait, j'imagine les deux recettes. Hein. La première, le pâté chinois, c'est assez sympathique, mais les galettes, elles m'ont l'air succulentes.
Ah, attention. Alors, c'est votre choix du coup. Vous attribuez le point à Louise.
Ouais, allez, à Louise.
Ah, merci France. Vous allez vous régaler.
Mais est-ce qu'on vous a donné envie de cuisiner quand même un pâté chinois à un moment donné?
Et oui, tout à fait. J'ai bien envie d'essayer.
Vas-y donc, vous êtes courageuse.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Louise?
Vous n'aimez pas le hachis parmentier, Louise?
Non, si, j'adore.
Ah non, mais moi j'adore ça.
Bah, voilà.
Oui, c'est vrai qu'on n'est pas loin d'un hachis parmentier.
Ah ben, non, c'est pas qu'on n'est pas loin. C'est exactement un hachis parmentier, sauf que vous ajoutez une crème de maïs au milieu.
Mm-hmm.
C'est tout.
Ce qui peut être bon d'ailleurs. Hein.
Mais pourquoi ce serait pas bon?
Parce que vous avez perdu. Victoire de Louise Petit Renault.
Merci France.
C'est pas moi qui décide, c'est France. Voilà, c'est comme ça. France qui part avec un guide du routard aux éditions Hachette, un guide de votre choix, ainsi que une montre RTL qu'on vous offre. Et puis je vous donne rendez-vous peut-être d'ici moins de 20 minutes maintenant pour le tirage au sort du séjour mis en jeu cette semaine. Je rappelle, séjour de deux nuits pour deux personnes au château de Rochecotte avec un repas au restaurant de l'hôtel. On se rappelle peut-être dans un instant, je vous le souhaite France.
Bonne chance.
Merci
France.
Merci beaucoup, merci.
Et vive le pâté chinois, peut-être à tout à l'heure. RTL vous régale, la suite dans un instant, après Francis Cabrel. À l'aube, revenant, bonne fin de matinée, vous écoutez RTL, c'est l'été, et on est là jusqu'à la fin du mois d'août.
À l'aube revenant, les amants se relèvent, descendent de leurs rêves, encore ruisselants. Chaque geste est urgent, puisque le jour se lève, la tempête s'achève. en murmure brûlant. Il s'était perdu dans l'obscurité profonde. Là, les étoiles se fondent au jour apparaissant. À leurs pas hésitants, on sent la fin du monde. Encore une seconde, encore un instant. Le souffle qu'on entend, ces deux cœurs qui s'arrachent. Une main se détache et l'autre la reprend. Aux yeux l'égarement des oiseaux qu'on relâche et qui cherchent où se cache le piège qu'on leur tend. Au moindre éloignement, la vie qui les oblige, le vide, le vertige et faire semblant. Se couvrent de serments, se jurent de poursuivre leur course en équilibre sur les pierres des torrents. À l'aube revenant, chacun séparément continuera le rêve, le seul qui les soulève et les garde vivants. C'est éternellement qu'ils se croyaient soudés, et même l'éternité pour eux s'est passée longtemps. Ils étaient deux passants dans l'anonyme foule, dans ce fleuve qui roule, dans la masse des gens. Ils se sont reconnus, un peu trop tard peut-être, mais c'est se reconnaître en vrai qui est important. À l'aube revenant, les amants se relèvent, descendent de leurs rêves, encore ruisselant.
À l'aube revenant, Francis Cabrel sur RTL.
Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30. RTL vous régale. D'alcool.
11h, 12h30.
RTL vous régale.
RTL vous régale, une balade tout au long de la Seine ce matin depuis le musée des Beaux-Arts de Rouen, où nous allons une fois de plus remplir le panier de oui. Cette émission. Louise, qu'est-ce qu'on met pour commencer aujourd'hui dans le panier?
Bah, votre avis?
Bah, du fromage.
Du fromage, encore et toujours. Bah oui, on va mettre du Livaro, qui a une AOP qui est la plus ancienne d'ailleurs, AOP fromagère de Normandie. Alors on le reconnaît à sa croûte jaune orangée. Il est originaire de la commune de Livaro. C'est un fromage à pâte molle et à croûte lavée, fabriquée à partir de lait de vache, collectée dans le pays d'Auge. Sa pâte est blonde et fondante. Il a un vrai goût du terroir, c'est-à-dire qu'il est franc et prononcé, un c'est petit ça. Peu comme vous.
Ouais. C'est pas la même croûte. Dites-moi, Jean-Sébastien, que pensez-vous du sucre de pomme de Rouen?
Ça, c'est un bonheur. C'est un apothicaire de Rouen qui a créé ça en 1592. Le sucre de pomme, à l'époque, était considéré comme un remède contre la mélancolie et les maux de gorge. Et la réputation de ce sucre s'est notamment construite grâce aux habitudes des échevins de la ville qui offraient aux rois et aux souverains qui séjournaient à Rouen des paniers de confiserie et notamment de sucre de pomme de Rouen. Et cette coutume a duré puisque l'impératrice Marie-Louise, lors de son séjour en 1813, a reçu tout son lot de sucre de pomme. C'est
Flaubert en a également parlé. Il a rendu hommage dans une lettre au conseil municipal de ce qu'on lui avait offert du sucre de pomme. Et puis on en parle également dans un livre absolument remarquable de Valérie Duclos qui s'appelle « À la table de Flaubert », où on parle de ce sucre de pomme de Rouen. Valérie Duclos, que je salue, qui nous a envoyé des messages sur Instagram.
Louise, quand on parle de pommes, bah justement, oui. On parle forcément aussi de...
Bah de Calva, parce que vous avez remarqué, j'ai fait le jus de pomme, j'ai fait le pommeau, bon ben bah on en revient au Calva, bouclée, dans le petit Dijon quoi. C'est sans doute l'une des plus anciennes eaux de vie françaises. Le Calvados est profondément et historiquement ancré dans la Normandie. C'est les résultats de l'évolution de l'agriculture et de la production de pommes au Moyen-Âge. Alors la Normandie bénéficie quand même d'un verger de 7 millions d'arbres. La transformation de cidre en Calvados se fait par une distillation qui est une opération consistant à la séparation de l'alcool et de l'eau de vie par un alambic. Ce liquide, entre guillemets, est ensuite placé dans des fûts de chêne afin d'être vieilli durant 2 à 3 ans, voire plus, avant d'être mis en vente. Et surtout, moi je voulais vous dire que j'ai goûté récemment un jeune Calva. On est beaucoup moins habitué à déguster des jeunes Calvas et je
votre
peux vous dire que
c'est...
Regarde
pas.
Comment ?
Votre vie privée, faites ce que
non, vous mais je peux vous dire que c'est assez étonnant. On est sur le fruit, c'est jeune, mais c'est absolument merveilleux.
Alors Louise, vous parliez du Calvados, c'est ouais. Évident. Le Calva qui est la star du trou normand.
Ben, évidemment.
On y est.
Alors vous savez qu'il y a trois AOC en matière de Calvados. Vous avez Calvados, Calvados du Pays d'Auge, Calvados d'Onfronté. Les puristes ne boivent rien moins que du Calvados de 15 ans d'âge. Évidemment, c'est pas le même budget, hein, mais c'est un truc absolument surréaliste. Le trou normand, eh ben, à l'origine, c'est une vraie tradition normande qui consistait à faire son trou. Pour continuer à manger, on sirotait un verre d'eau de vie. Ça a été remplacé par ce Calvados. Au 19e, c'est carrément devenu... On va dire quoi? Un encas au milieu du repas, une pause, une boule de glace à la pomme avec du Calvados dessus. Et ça permettait, paraît-il, hein, de prolonger...
De fluidifier les gras.
On va dire de repartir à zéro.
C'est ça, de remettre les compteurs.
Et de repartir. Et par exemple, bah déjà après une entrée un peu copieuse, de se lancer dans une belle escalope normande.
Oh oui. C'est bon ça.
Vous imaginez...
On y va, allez, on y va.
C'est quand même... Alors, bon, l'escalope normande, elle se fait avec soit... Scope de veau, traditionnellement. Vous pouvez également prendre des ballottines de volaille.
Vous voyez. Non, restons dans la tradition. Non, oui, vous dans la tradition, on fait escalope de veau, on commence pas à chipoter.
Les champignons.
Ouais, de la crème.
Vous émincez quelques champignons, vous faites fondre une noix de beurre dans une poêle, vous saisissez juste les escalopes, et puis ensuite, vous ajoutez la crème. Vous allez faire une sorte de lit à votre escalope de veau, elle va se recouvrir de crème. Faut vraiment en mettre bien, hein. Vous mettez un peu de moutarde, un peu de vin blanc, vous laissez plomb, 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 plomb.
On l'a.
Plop, ça je commence, veux manger ça.
Ça commence. Vous mettez sel, poivre, généreusement poivré, pour que ce soit sublimement bon. Et puis à partir de là, bah vous avez un des incontournables de la région. C'est une alliance savoureuse de tous les savoir-faire qu'on a dans la région, en fait.
Ouais.
Et notamment de cette crème. Moi, j'aime bien, dans l'escalope normande, vous pouvez la faire flamber, justement, avec un peu de calva. Vous pouvez aussi ajouter... avec les champignons ou carrément à la place des champignons, des pommes. Vous faites des petites tranches de pommes.
Il n'y a pas l'acidité de la pomme là.
Ben non, parce que ça dépend quelle pomme vous choisissez.
Eh oui, il faut prendre une pomme un peu farineuse. Ben,
il faut prendre une pomme qui se tienne à la cuisson, qui soit justement pas trop acide, mais pas trop sucrée non plus, pour pas dénaturer. Mais ça peut donner un petit.
Sinon, que des pommes de terre sautées.
Ah ben,
on met dans la crème.
Ça c'est à côté. C'est
oh là là.
Des tagliatelles fraîches.
Puis surtout, on prend un bout de pain et puis on sauce après.
Ben, hein. Évidemment.
Plus rien dans l'assiette surtout.
Évidemment.
Vous avez reconnu.
Même à la limite. S'il y a trop de sauce, on prend une cuillère.
Ah oui, on achète la cuillère. Enfin bon, bref, on se comprend.
Vous faites
avec le doigt.
Le tour avec le doigt, comme ça.
Voilà, vous venez de comprendre, vous qui nous écoutez un peu partout en France, pourquoi vous écoutez cette émission tous les jours de l'été entre 11h et 12h30. On se retrouve dans un instant. À tout de suite sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Before You, c'était Harry Styles sur RTL.
Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30. RTL vous régale.
RTL. 11h, 12h30.
RTL vous régale.
Deux petits pas en petits pas pour clôturer RTL vous régale depuis le début de l'été. Chaque jour, Jean-Sébastien qui nous régale de ses chemins de traverse. On part pour Fécamp ?
Absolument. Et pour Fécamp et pour raconter une belle histoire. L'histoire d'Alexandre le Grand. Je vais vous apprendre qu'Alexandre le Grand est né le 6 juin 1830. Le petit Alexandre ne sait pas à ce moment-là qu'il va entrer dans l'histoire. La trentaine venue, Alexandre est un honnête marchand de vin. Il travaille à l'élaboration d'une liqueur. Pour cette liqueur, pas moins de 27 plantes et épices différentes sont nécessaires. Je vous rassure, la recette est tenue secrète. Il y a trois plantes cauchoises néanmoins. L'hysope, la mélisse et l'angélique. Elle aurait pu devenir une liqueur de plus à ranger entre le Cointreau et le Grand Marnier si Alexandre le Grand n'avait eu l'idée de lui inventer une légende. Un coup de marketing absolument génial. Il en aurait retrouvé la recette dans un manuscrit du XVIe siècle, rédigé par un moine de l'abbaye bénédictine de Fécamp, Don Bernardo Vincelli, d'origine vénitienne, lequel l'aurait fait goûter à François Ier. Le roi l'apprécia. Tous les historiens restèrent dubitatifs face à cette histoire, mais qu'importe. Il a carrément obtenu du pape le droit d'utiliser le nom et les armes de l'abbaye bénédictine de Fécamp. Et même sa devise, Deo Optimo Maximo, D-O-M. Ces trois lettres figurent sur toutes les bouteilles de bénédictine. Une escroquerie phénoménale. Mais Alexandre le Grand était un bâtisseur, un homme de marketing et de communication avant l'heure. Il a fait de la bénédictine un succès mondial qui culmina en 1888 avec l'ouverture du palais bénédictine à Fécamp. On peut toujours visiter ce bâtiment délirant, un tiers gothique, un tiers renaissance, un tiers art nouveau. Ça sent presque le cocktail. En attendant, il vous faudra aussi un tiers de vaccin pour le visiter. Alexandre le Grand l'aurait certainement vendu magnifiquement en lui inventant une belle légende aussi.
Tout de suite, retour de RTL.fr.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Louise Jean-Sébastien, ce n'est pas sans quelques regrets que nous allons quitter le musée des Beaux-Arts de Rouen.
Ah oui.
Nous étions merveilleusement installés.
Sublime.
Dans ce puits de lumière fantastique qui nous accueille depuis hier. On va vous souhaiter un très bon week-end. Vous retrouvez lundi à partir de 11h. Et alors, on va traverser la France. On va partir de la Normandie, on va arriver dans le sud-est. Direction le Var, nous serons
à Saint-Tropez,
ses histoires, Saint-Tropez, c'est l'été.
On prend les maillots de bain.
Saint-Tropez, c'est légende. Ah bah alors, comptez sur moi lundi. Passez un très bon week-end. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler qu'il y a eu un tirage au sort il y a quelques instants pour le gagnant du séjour de deux nuits pour deux au château de Rochecotte avec le repas au restaurant de l'hôtel. Gagnante de ce défi frigo cette semaine. Oui, c'est vous, Malika, qui nous écoutez et qui avez joué cette semaine sur base de la viande hachée.
Ah, c'était les boulettes.
C'était la victoire de Jean-Seb, exactement.
Bravo, Jean-Seb.
Les polpettes de Jean-Seb.
Ça porté chance.
C'était sorti vainqueur. Bravo à Malika. On vous envoie un week-end, avec la personne de votre choix au château de Rochecotte. Nouveau séjour mis en jeu dès la semaine prochaine. Rendez-vous lundi. Bon week-end à tous. Vous écoutez RTL.